Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre 31e. Retour de Rome à Paris. Mes projets. Le roi et ses dispositions. Monsieur Portalis, Monsieur de Martignac. Départ pour Rome. Les Pyrénées. Aventure. 2. Ministère Polignac. Ma consternation. Je reviens à Paris. 3. Entrevue avec Monsieur de Polignac. Je donne ma démission de mon ambassade de Rome. 4. Flagornerie des journaux. 5. Les premiers collègues de Monsieur de Polignac. 6. Expédition d'Alger. 7. Ouverture de la session de 1830. Adresse. La chambre est dissoute. 8. Nouvelle chambre. Je pars pour Dieppe. Ordonnance du 25 juillet. Je reviens à Paris. Réflexion pendant ma route. Lettre à Madame Récamier. Chapitre 1. Paris, août et septembre 1830, rue d'Enfer. Retour de Rome à Paris. Mes projets. Le roi et ses dispositions. Monsieur Portalis. Monsieur de Martignac. Départ pour Rome. Les Pyrénées. Aventure. J'eus un grand plaisir à revoir mes amis. Je ne rêvais qu'au bonheur de les emmener avec moi et à finir mes jours à Rome. J'écrivis pour mieux m'assurer encore du petit palais Caffarelli que je projetais de louer sur le Capitole et de la cellule que je postulais à Saint-Onufre. J'achetais des chevaux anglais et je les fis partir pour les prairies des Vendres. Je disais déjà adieu dans ma pensée à ma patrie avec une joie qui méritait d'être punie. Lorsqu'on a voyagé dans sa jeunesse et qu'on a passé beaucoup d'années hors de son pays, on s'est accoutumé à placer partout sa mort. En traversant les mers de la Grèce, il me semblait que tous ces monuments que j'apercevais sur les promontoires étaient des hôtelleries où mon lit était préparé. J'allai faire ma cour au roi à Saint-Cloud. Il me demanda quand je retournais à Rome. Il était persuadé que j'avais un bon cœur et une mauvaise tête. Le fait est que j'étais précisément l'inverse de ce que Charles X pensait de moi. J'avais une tête très froide et très bonne tête, et le cœur qu'un quart pour les trois quarts et demi du genre humain. Je trouvai le roi dans une fort mauvaise disposition à l'égard de son ministère. Il le faisait attaquer par certains journaux royalistes, ou plutôt lorsque les rédacteurs de ses feuilles allait lui demander s'il ne les trouvait pas trop hostiles, il s'écriait « Non, non, continuez !» Quand M. de Martignac avait parlé, « Eh bien, disait Charles X, avez-vous entendu la pasta ?» Les opinions libérales de M. Hyde de Neuville lui étaient antipathiques. Il trouvait plus de complaisance dans M. Portalis, le fédéré, qui portait sa cupidité sur son visage. C'est à M. Portalis que la France doit ses malheurs. Quand je le vis à Passy, je m'aperçus de ce que j'avais en partie deviné. Le garde des Sceaux, en faisant semblant de tenir par intérim le ministère des Affaires étrangères, mourait d'envie de le conserver, bien qu'il se fût pourvu, à tout événement, de la place de président de la Cour de cassation. Le roi, quand il s'était agi de disposer des Affaires étrangères, avait prononcé « Je ne dis pas que Chateaubriand ne sera pas mon ministre, mais pas à présent. » Le prince de Laval avait refusé. Monsieur de La Ferronnays ne se pouvait plus livrer à un travail suivi. Dans l'espoir que de guerre lasse le portefeuille lui resterait, Monsieur Portalis ne faisait rien pour déterminer le roi. Plein de mes délices futures de Rome, je m'y laissais aller sans trop sonder l'avenir. il me convenait assez que M. Portalis gardât l'intérim, à l'abri duquel ma position politique restait la même. Il ne me vint pas un seul instant dans l'idée que M. de Polignac pourrait être investi du pouvoir. Son esprit borné, fixe et ardent, son nom fatal et impopulaire, son entêtement, ses opinions religieuses exaltées jusqu'au fanatisme, me paraissaient des causes d'une éternelle exclusion. Il avait, il est vrai, souffert pour le roi, mais il en était largement récompensé par l'amitié de son maître et par la haute ambassade de Londres que je lui avais donnée sous mon ministère, malgré l'opposition de M. de Villèle. De tous les ministres en place que je trouvais à Paris, excepté l'excellent M. Hyde de Neuville, pas un ne me plaisait. Je sentais en eux une capacité incapable qui me laissait de l'inquiétude sur la durée de leur empire. M. de Martignac, d'un talent de parole agréable, avait une voix douce et épuisée, comme celle d'un homme à qui les femmes ont donné quelque chose de leur séduction et de leur faiblesse. Pythagore se souvenait d'avoir été une courtisane charmante, nommée Alcée. L'ancien secrétaire d'ambassade de l'abbé Seyès avait aussi une suffisance contenue, un esprit calme, un peu jaloux. Je l'avais, en 1823, envoyé en Espagne, dans une position élevée et indépendante. Mais il aurait voulu être ambassadeur. Il était choqué de n'avoir pas reçu un emploi qu'il croyait dû à son mérite. Mon goût ou mes déplaisances importaient peu. La Chambre commit une faute en renversant un ministère qu'elle aurait dû conserver à tout prix. Ce ministère modéré servait de garde-fou à des abîmes. Il était aisé de le jeter bas, car il ne tenait à rien, et le roi lui était ennemi. Raison de plus pour ne faire aucune chicane à ses hommes, pour leur donner une majorité à l'aide de laquelle ils se fussent maintenus, et aurait fait place un jour, sans accident, à un ministère fort. En France, on ne sait rien attendre. On a horreur de tout ce qui a l'apparence du pouvoir, jusqu'à ce qu'on le possède. Au surplus, M. de Martignac a démenti noblement ses faiblesses, en dépensant avec courage le reste de sa vie dans la défense de M. de Polignac. Les pieds me brûlaient à Paris, je ne pouvais m'habituer au ciel gris et triste de la France, ma patrie. Qu'aurais-je donc pensé du ciel de la Bretagne, ma matrie, pour parler grec? Mais là, du moins, il y a des vents de mer ou des calmes. Tumidis albens fluctibus, ou venti possuere. Mes ordres étaient donnés pour exécuter dans mon jardin et dans ma maison, rue d'Enfer, les changements et les accroissements nécessaires, afin qu'à ma mort, le legs que je voulais faire de cette maison à l'infirmerie de Madame de Chateaubriand fût plus profitable. Je destinais cette propriété à la retraite de quelques artistes et de quelques gens de lettres malades. Je regardais le soleil pâle et je lui disais « Je vais bientôt te retrouver avec un meilleur visage et nous ne nous quitterons plus. » Ayant pris congé du roi et espérant le débarrasser pour toujours de moi, je montai en calèche. J'allais d'abord aux Pyrénées prendre les eaux de Cotteret. De là, traversant le Languedoc et la Provence, je devais me rendre à Nice, où je rejoindrais Madame de Chateaubriand. Nous passions ensemble la corniche, nous arrivions à la ville éternelle que nous traversions sans nous arrêter, et, après 2 mois de séjour à Naples, au berceau du Tasse, nous revenions à sa tombe, à Rome. Ce moment est le seul de ma vie où j'ai été complètement heureux, où je ne désirais plus rien, où mon existence était remplie, où je n'apercevais jusqu'à ma dernière heure qu'une suite de jours de repos. Je touchais au port. J'y entrais à pleine voile, comme Palinure, in opina quies. Tout mon voyage jusqu'aux Pyrénées fut une suite de rêves. Je m'arrêtais quand je voulais. Je suivais sur ma route les chroniques du Moyen-Âge que je retrouvais partout. Dans le Berry, je voyais ces petites routes bocagères que l'auteur de Valentine nomme des traînes et qui me rappelait ma Bretagne. Richard Cœur de Lion avait été tué à Chalus, au pied de cette tour. Enfant musulman, paix là. Voici le roi Richard. À Limoges, j'ôtai mon chapeau par respect pour Molière. À Périgueux, les perdrix dans leur tombeau de faïence ne chantaient plus de différentes voix comme au temps d'Aristote. Je rencontrai là mon vieil ami, Clausel de Coussergues. Il portait avec lui quelques-unes des pages de ma vie. À Bergerac, j'aurais pu regarder le nez de Cyrano sans être obligé de me battre contre ce cadet aux gardes. Je le laissais dans sa poussière avec « ces dieux que l'homme a fait et aussi n'ont pas fait l'homme ». À Auch, j'admirais les stalles sculptées sur des cartons venus de Rome à la belle époque des arts. Dossa, mon devancier à la cour du Saint-Père, était né près d'Auch. Le soleil ressemblait déjà à celui de l'Italie. À Tarbes, j'aurais voulu héberger à l'hôtel de l'Étoile où Froissart descendit avec Messire Espin de Lyon, vaillant homme et sage et beau chevalier, et où il trouva de bons foins, de bonnes avoines et de belles rivières. Au lever des Pyrénées sur l'horizon, le cœur me battait. Du fond de 23 années, sortir des souvenirs embellis dans les lointains du temps. Je revenais de la Palestine et de l'Espagne, lorsque, de l'autre côté de leur chaîne, je découvris le sommet de ces mêmes montagnes. Je suis de l'avis de Madame de Motteville. Je pense que c'est dans un de ces châteaux des Pyrénées qu'habitait Urgande, la déconnue. Le passé ressemble à un musée d'antique. On y visite les heures écoulées, chacun peut y reconnaître les siennes. Un jour, me promenant dans une église déserte, j'entendis des pas se traînant sur les dalles, comme ceux d'un vieillard qui cherchait sa tombe. Je regardai et n'aperçus personne. C'était moi qui m'étais révélé à moi. Plus j'étais heureux à Cotteret, plus la mélancolie de ce qui était fini me plaisait. La vallée étroite et resserrée est animée d'un gave. Au-delà de la ville et des fontaines minérales, elle se divise en deux défilés, dont l'un, célèbre par ses sites, aboutit au pont d'Espagne et au glacier. Je me trouvais bien des bains. J'achevais seul de longues courses en me croyant dans les escarpements de la Sabine. Je faisais tous mes efforts pour être triste, et je ne le pouvais. Je composais quelques strophes sur les Pyrénées. Je disais « J'avais vu fuir les mers de Solyme et d'Athènes, d'Ascalon et du Nil, les mouvantes arènes, Carthage abandonnée et son port blanchissant. Le vent léger du soir arrondissait ma voile, et de Vénus, l'étoile, mêlait sa perle humide à l'or pur du couchant. Assis au pied du mât de mon vaisseau rapide, mes yeux cherchaient de loin ces colonnes d'Alcide, où choquent leurs tridents de Neptune irrités. De l'antique Hespérie abordant le rivage, du noble Abencérage, le mystère m'ouvrit les palais enchantés. Comme une jeune abeille aux roses engagée, ma muse revenait de son butin chargé, et cueillit sur la fleur des plus beaux souvenirs. Dans les monts que Roland brisa par sa vaillance, je comptais à sa lance l'orgueil de mes dangers, tentés pour des plaisirs. De l'âge délaissé quand survient la disgrâce, fuyons, fuyons les bords qui, gardant notre trace, nous font dire du temps en mesurant le cours. Alors j'avais un frère, une mère, une amie, félicité ravie. Combien me reste-t-il de parents et de jours ? Il me fut impossible d'achever mon ode. J'avais drapé lugubrement mon tambour pour battre le rappel des rêves de mes nuits passées. Mais toujours parmi ces rappelés se mêlaient quelques songes du moment, dont la mine heureuse déjouait l'air consterné de leurs vieux confrères. Voilà qu'en poétisant, je rencontrai une jeune femme assise au bord du gave. Elle se leva et vint droit à moi. Elle savait, par la rumeur du hameau, que j'étais à Cotteret. Il se trouva que l'inconnue était une Occitanienne qui m'écrivait depuis 2 ans sans que je l'eusse jamais vue. La mystérieuse anonyme se dévoila. Patuit Dea. J'allais rendre ma visite respectueuse à la naïade du torrent. Un soir qu'elle m'accompagnait, lorsque je me retirais, elle me voulut suivre. Je fus obligé de la reporter chez elle, dans mes bras. Jamais je n'ai été si honteux. Inspirer une sorte d'attachement à mon âge me semblait une véritable dérision. Plus je pouvais être flatté de cette bizarrerie, plus j'en étais humilié, la prenant avec raison pour une moquerie. Je me serais volontiers caché de vergogne parmi les ours, nos voisins. J'étais loin de me dire ce que se disait Montaigne. L'amour me rend droit la vigilance, la sobriété, la grâce, le soin de ma personne. Mon pauvre Michel, tu dis des choses charmantes, mais à notre âge, vois-tu, l'amour ne nous rend pas ce que tu supposes ici. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de nous mettre franchement de côté. Au lieu donc de me remettre aux études saines et sages, par où je pusse me rendre plus aimé, j'ai laissé s'effacer l'impression fugitive de ma Clémence Isaure. La spirituelle, déterminée et charmante étrangère de 16 ans, m'a su gré de m'être rendue justice. Elle est mariée. Chapitre 2. Ministère Polignac. Ma consternation. Je reviens à Paris. Des bruits de changement de ministre étaient parvenus dans nos sapinières. Les gens bien instruits allaient jusqu'à parler du prince de Polignac, mais j'étais d'une incrédulité complète. Enfin, les journaux arrivent. Je les ouvre et mes yeux sont frappés de l'ordonnance officielle qui confirme les bruits répandus. J'avais bien éprouvé des changements de fortune depuis que j'étais au monde, mais je n'étais jamais tombé d'une pareille hauteur. Ma destinée avait encore une fois soufflé sur mes chimères, et ce souffle du sort n'effaçait pas seulement mes illusions, il enlevait la monarchie. Ce coup me fit un mal affreux. J'eus un moment de désespoir, car mon parti fut pris à l'instant. Je sentis que je me devais retirer. La poste m'apporta une foule de lettres. Toutes m'enjoignaient d'envoyer ma démission. Des personnes même que je connaissais à peine se crurent obligées de me prescrire la retraite. Je fus choqué de cet officieux intérêt pour ma bonne renommée. Grâce à Dieu, je n'ai jamais eu besoin qu'on me donnât des conseils d'honneur. Ma vie a été une suite de sacrifices qui ne m'ont jamais été commandés par personne. En fait de devoir, j'ai l'esprit primesautier. Les chutes me sont des ruines, car je ne possède rien que des dettes, dettes que je contracte dans des places où je ne demeure pas assez de temps pour les payer. De sorte que toutes les fois que je me retire, je suis réduit à travailler au gage d'un libraire. Quelques-uns de ces fiers obligeants, qui me prêchaient l'honneur et la liberté par la poste, et qui me les prêchèrent encore bien plus haut lorsque j'arrivais à Paris, donnèrent leur démission de conseiller d'État. Mais les uns étaient riches, les autres ne se démirent pas des places secondaires qu'ils possédaient et qui leur laissèrent les moyens d'exister. Ils firent comme les protestants, qui rejettent quelques dogmes catholiques et qui en conservent quelques autres tout aussi difficiles à croire. Rien de complet dans ces oblations, rien d'une pleine sincérité. On quittait 12 ou 15 000 livres de rente, il est vrai, mais on rentrait chez soi opulent de son patrimoine, ou du moins pourvu de ce pain quotidien qu'on avait prudemment gardé. Avec ma personne, pas tant de façons. On était rempli pour moi d'abnégation. On ne pouvait jamais assez se dépouiller pour moi de tout ce que je possédais. Allons, Georges Dandin, le cœur au ventre, corbleu, mon gendre, ne forlignez pas, habit bas. Jetez par la fenêtre 200 000 livres de rente, une place selon vos goûts, une haute et magnifique place, l'empire des arts à Rome, le bonheur d'avoir enfin reçu la récompense de vos luttes longues et laborieuses. Tel est notre bon plaisir. À ce prix, vous aurez notre estime. De même que nous nous sommes dépouillés d'une casaque sous laquelle nous avons un bon gilet de flanelle, de même vous quitterez votre manteau de velours pour rester nu. Il y a égalité parfaite, parité d'autel et d'holocauste. Et, chose étrange, dans cette ardeur généreuse à me pousser dehors, les hommes qui me signifiaient leur volonté n'étaient ni mes amis réels, ni les copartageants de mes opinions politiques. Je devais m'immoler sur-le-champ au libéralisme, à la doctrine qui m'avait continuellement attaqué. Je devais courir le risque d'ébranler le trône légitime pour mériter l'éloge de quelque poltron d'ennemi qui n'avait pas le courage entier de mourir de faim. J'allais me trouver noyé dans une longue ambassade. Les fêtes que j'avais données m'avaient ruiné. Je n'avais pas payé les frais de mon premier établissement. Mais ce qui me navrait le cœur, c'était la perte de ce que je m'étais promis de bonheur pour le reste de ma vie. Je n'ai point à me reprocher d'avoir octroyé à personne ces conseils catoniens, qui appauvrissent celui qui les reçoit, et non celui qui les donne. Bien convaincu que ces conseils sont inutiles à l'homme qui n'en a point le sentiment intérieur. Dès le premier moment, je l'ai dit, ma résolution fut arrêtée. Elle ne me coûta pas à prendre, mais elle fut douloureuse à exécuter. Lorsqu'à Lourdes, au lieu de tourner au midi et de rouler vers l'Italie, je pris le chemin de Pau, mes yeux se remplirent de larmes. J'avoue ma faiblesse. Qu'importe si je n'en ai pas moins accepté et soutenu le cartel que m'envoyait la fortune. Je ne revins pas vite, afin de laisser les jours s'écouler. Je dépelotonnais lentement le fil de cette route que j'avais remontée avec tant d'allégresse, il y avait à peine quelques semaines. Le prince de Polignac craignait ma démission. Il sentait qu'en me retirant, je lui enlèverais aux chambres des votes royalistes et que je mettrais son ministère en question. On lui suggéra la pensée de m'envoyer une estafette aux Pyrénées avec ordre du roi de me rendre immédiatement à Rome pour recevoir le roi et la reine de Naples qui venaient marier leur fille en Espagne. J'aurais été fort embarrassé si j'avais reçu cet ordre. Peut-être me serais-je cru obligé d'y obéir, quitte à donner ma démission après l'avoir remplie. Mais une fois à Rome, que serait-il arrivé? Je me serais peut-être attardé. Les fatales journées m'auraient pu surprendre au Capitole. Peut-être aussi l'indécision, où j'aurais pu rester, aurait-elle donné la majorité parlementaire à M. de Polignac, qui ne lui faillit que de quelques voix. L'adresse alors ne passait pas. Les ordonnances, résultat de cette adresse, n'auraient peut-être pas paru nécessaires à leurs funestes auteurs. 10 aliter visum. Chapitre 3. Entrevue avec M. de Polignac. Je donne ma démission de mon ambassade de Rome. Je trouvai à Paris Mme de Chateaubriand toute résignée. Elle avait la tête tournée d'être ambassadrice à Rome, et certes une femme l'aurait à moins. Mais, dans les grandes circonstances, ma femme n'a jamais hésité d'approuver ce qu'elle pensait propre à mettre de la consistance dans ma vie et à rehausser mon nom dans l'estime publique. En cela, elle a plus de mérite qu'une autre. Elle aime la représentation, les titres et la fortune. Elle déteste la pauvreté et le ménage chétif. Elle méprise ses susceptibilités, ses excès de fidélité et d'immolation qu'elle regarde comme de vrais duperies, dont personne ne vous sait gré. Elle n'aurait jamais crié « Vive le roi !» quand même. Quand il s'agit de moi, tout change. Elle accepte d'un esprit ferme mes disgrâces en les maudissant. Il me fallait toujours jeûner, veiller, prier pour le salut de ceux qui se gardaient bien de se vêtir du cilice dont ils s'empressaient de m'affubler. J'étais l'âne saint. L'âne, chargé des arides reliques de la liberté. Reliques qu'ils adoraient en grande dévotion, pourvu qu'ils n'eussent pas la peine de les porter. Le lendemain de mon retour à Paris, je me rendis chez M. de Polignac. Je lui avais écrit cette lettre en arrivant. Paris, ce 28 août 1829. Prince, j'ai cru qu'il était plus digne de notre ancienne amitié, plus convenable à la haute mission dont j'étais honoré et avant tout plus respectueux envers le roi, de venir déposer moi-même ma démission à ses pieds, que de vous la transmettre précipitamment par la poste. Je vous demande un dernier service, c'est de supplier Sa Majesté de vouloir bien m'accorder une audience et d'écouter les raisons qui m'obligent à renoncer à l'ambassade de Rome. Croyez, prince, qu'il m'en coûte, au moment où vous arrivez au pouvoir, d'abandonner cette carrière diplomatique que j'ai eu le bonheur de vous ouvrir. Agréez, je vous prie, l'assurance des sentiments que je vous ai voués et de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, prince, votre très humble, très obéissant serviteur, Chateaubriand. En réponse à cette lettre, on m'adressa ce billet des bureaux des affaires étrangères. Le prince de Polignac a l'honneur d'offrir ses compliments à M. le vicomte de Chateaubriand et le prie de passer au ministère demain dimanche à 9 heures précises, si cela lui est possible. Samedi, 4 heures. J'y répliquai sur le champ par cet autre billet. Paris, ce 29 août 1829, au soir. J'ai reçu, prince, une lettre de vos bureaux qui m'invite à passer demain 30, à 9 heures précises, au ministère, si cela m'est possible. Comme cette lettre ne m'annonce pas l'audience du roi que je vous avais prié de demander, j'attendrai que vous ayez quelque chose d'officiel à me communiquer sur la démission que je désire mettre aux pieds de Sa Majesté. 1000 compliments empressés, Chateaubriand. Alors M. de Polignac m'écrivit ces mots de sa propre main. « J'ai reçu votre petit mot, mon cher vicomte. Je serai charmé de vous voir demain sur les 10 heures, si cette heure peut vous convenir. Je vous renouvelle l'assurance de mon ancien et sincère attachement. » Le prince de Polignac. Ce billet me parut de mauvais augure. Sa réserve diplomatique me fit craindre un refus du roi. Je trouvai le prince de Polignac dans le grand cabinet que je connaissais si bien. Il accourut au-devant de moi, me serra la main avec une effusion de cœur que j'aurais voulu croire sincère, et puis, me jetant un bras sur l'épaule, nous commençâmes à nous promener lentement d'un bout à l'autre du cabinet. Il me dit qu'il n'acceptait point ma démission, que le roi ne l'acceptait pas, qu'il fallait que je retournasse à Rome. Toutes les fois qu'il répétait cette dernière phrase, il me crevait le cœur. « Pourquoi, me disait-il, ne voulez-vous pas être dans les affaires avec moi, comme avec la Ferronnay et Portalis? Ne suis-je pas votre ami? Je vous donnerai à Rome tout ce que vous voudrez. En France, vous serez plus ministre que moi, j'écouterai vos conseils. Votre retraite peut faire naître de nouvelles divisions. Vous ne voulez pas nuire au gouvernement. » Le roi sera fort irrité si vous persistez à vouloir vous retirer. Je vous en supplie, cher vicomte, ne faites pas cette sottise. » Je répondis que je ne faisais pas une sottise, que j'agissais dans la pleine conviction de ma raison, que son ministère était très impopulaire, que ses préventions pouvaient être injustes, mais qu'enfin elles existaient, que la France entière était persuadée qu'il attaquerait les libertés publiques, et que moi, défenseur de ces libertés, il m'était impossible de m'embarquer avec ceux qui passaient pour en être les ennemis. J'étais assez embarrassé dans cette réplique, car au fond, je n'avais rien à objecter d'immédiat aux nouveaux ministres. Je ne pouvais les attaquer que dans un avenir qu'ils étaient en droit de nier. M. de Polignac me jurait qu'il aimait la charte autant que moi. Mais il l'aimait à sa manière. Il l'aimait de trop près. Malheureusement, la tendresse que l'on montre à une fille que l'on a déshonorée lui sert peu. La conversation se prolongea sur le même texte près d'une heure. M. de Polignac finit par me dire que si je consentais à reprendre ma démission, le roi me verrait avec plaisir et écouterait ce que je voudrais lui dire contre son ministère, mais que si je persistais à vouloir donner ma démission, Sa Majesté pensait qu'il lui était inutile de me voir, et qu'une conversation entre elle et moi ne pouvait être qu'une chose désagréable. Je répliquai. « Regardez donc, prince, ma démission comme donnée. Je ne me suis jamais rétracté de ma vie. et puisqu'il ne convient pas au roi de voir son fidèle sujet, je n'insiste plus. » Après ces mots, je me retirai. Je priai le prince de rendre à M. le duc de Laval l'ambassade de Rome, s'il la désirait encore, et je lui recommandai ma légation. Je repris ensuite, à pied, par le boulevard des Invalides, le chemin de mon infirmerie, pauvre blessé que j'étais. M. de Polignac me parut rentrer, lorsque je le quittais, dans cette confiance imperturbable qui faisait de lui un muet éminemment propre à étrangler un empire. Ma démission d'ambassadeur à Rome étant donnée, j'écrivis au souverain pontife. Très Saint-Père, ministre des Affaires étrangères en France en 1823, j'eus le bonheur d'être l'interprète des sentiments du feu roi Louis XVIII pour l'exaltation désirée de votre sainteté à la chaire de Saint-Pierre. Ambassadeur de Sa Majesté Charles X près la cour de Rome, j'ai eu le bonheur plus grand encore de voir votre béatitude élevée au souverain pontificat et de l'entendre m'adresser des paroles qui seront la gloire de ma vie. En terminant la haute mission que j'avais l'honneur de remplir auprès d'elle, je viens lui témoigner les vifs regrets dont je ne cesserai d'être pénétré. Il ne me reste, très Saint-Père, qu'à mettre à vos pieds sacrés ma sincère reconnaissance pour vos bontés et à vous demander votre bénédiction apostolique. Je suis, avec la plus grande vénération et le plus profond respect, de votre sainteté, le très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. J'achevais pendant plusieurs jours de me déchirer les entrailles dans mon utique. J'écrivis des lettres pour démolir l'édifice que j'avais élevé avec tant d'amour. Comme dans la mort d'un homme, ce sont les petits détails, les actions domestiques et familières qui touchent. Dans la mort d'un songe, les petites réalités qui le détruisent sont plus poignantes. Un exil éternel sur les ruines de Rome avait été ma chimère. Ainsi que Dante, je m'étais arrangé pour ne plus rentrer dans ma patrie. Ces élucidations testamentaires n'auront pas, pour les lecteurs de ces mémoires, l'intérêt qu'elles ont pour moi. Le vieil oiseau tombe de la branche où il se réfugie. Il quitte la vie pour la mort. Entraîné par le courant, il n'a fait que changer de fleuve.